Bonjour Adrien, France Lanor.
Bonjour.
Vous êtes donc notre invité, vous êtes agrégé de philosophie, vous enseignez à Rouen, en Normandie, dans le nord-ouest de la France.
Oui.
Vous êtes traducteur de Heidegger, et vous avez notamment publié également aux éditions du CERF, c'était en 2011, Heidegger, Aristote et Platon, dialogue à trois voix. C'est dire que nous avons le bon invité à la bonne place au bon moment. Et nous allons donc parler de ce dictionnaire, je le disais, formidable instrument, plus de 1000 pages, 1500 pages, très dense et à la fois très, très accessible. On va en dire évidemment plus qu'un mot et on va faire cette émission à partir de ce dictionnaire. Mais d'où vient cette impression, en tout cas en ce qui me concerne, Adrien France Lanor, qu'en face de Heidegger, on a l'impression d'être au pied d'une montagne?
D'abord, c'est le propre d'un peu tous les philosophes qui intimident souvent les lecteurs non-philosophes. Et Kant ou Hegel sont tout autant des montagnes. Et ensuite, dans le cas de Heidegger, je pense qu'il y a le fait que toute la pensée occidentale est reprise depuis son commencement grec, reprise, réinterrogée. Et c'est un moment où l'Occident et l'Europe se posent une question à elles-mêmes. Ce qui fait que les Occidentaux souvent sont un peu interloqués, mais en revanche, d'autres cultures, par exemple les Japonais, ont tout de suite trouvé un accès à cette pensée, beaucoup plus facilement d'une certaine manière, et beaucoup plus immédiatement que les Occidentaux. Donc il y a cette interrogation massive sur l'ensemble des concepts européens, issus de la philosophie grecque et d'Aristote et de Platon, qui intimide, mais qui fait en même temps l'originalité et le fait que toutes sortes de gens se sont intéressés à ça, en plus des philosophes, les peintres, les poètes et toutes sortes de personnes.
Alors il faut préciser que la publication de l'œuvre d'Heidegger continue.
Oui, absolument, oui. Ça c'est une chose qui est souvent
incroyable,
méconnue. Ouais. Elle est en cours en réalité. La publication de l'ensemble des cours, par exemple, et des séminaires vient de s'achever l'année dernière, ce qui fait que nous avons des textes entièrement nouveaux chaque année, deux volumes paraissent par an. Et ça modifie évidemment entièrement la perception de l'ensemble de son œuvre et de la réception, puisque il y a des volumes, par exemple, on en reparlera sûrement, mais l'ensemble des volumes qu'il a écrits pendant la guerre et qu'il a gardé en secret, qu'il n'a pas publié de son vivant, sont désormais en cours de publication. Ça n'est pas achevé. Et ce sont presque 10, 11, 12 volumes qui paraissent.
Alors Adrien France Lanor, ce dictionnaire est vraiment très précieux. Vous l'avez dirigé avec Philippe Arjakovski et François Fédier. Vous avez, d'ailleurs on fera référence à pas mal de notices que vous avez écrites. C'est vraiment un outil de référence. Hein.
Oui, alors l'idée de la conception c'était que ce soit une fête, si vous voulez. Heidegger dit que penser est une fête. Et ça c'est quelque chose qui pour nous compte. Selon, à mon avis, ça veut dire trois choses et qu'on a essayé de mettre en œuvre dans le dictionnaire. D'abord, une fête, c'est la rencontre de personnes très diverses. Mmh. Et il y a dans ce dictionnaire toutes sortes de gens, d'âges différents, des hommes, des femmes, des Italiens, des Français, des Suisses, des gens qui lisent Heidegger depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, plus de 50 ans et plusieurs générations aussi qui se rencontrent dans ce livre parmi les auteurs. Ça, c'est la polyphonie festive, si vous voulez. La deuxième chose, c'était que tous les auteurs ont travaillé vraiment avec cœur. Et je pense que ça sent, et j'entends ça parmi les gens qui lisent et qui commencent à nous envoyer des lettres, etc. Il y a vraiment une implication de chacun et de travailler de tout son cœur, ce qui est du reste le propre, je crois, de la philosophie, où il y a quand même le mot philo, philia, ça veut dire aimer, chérir, et c'est bien s'engager de tout son être dans quelque chose. Et la troisième chose, c'est la dimension festive, c'est l'inhabituel. C'est des choses qui surprennent.
Ah oui, j'ai même remarqué une notice sur Beckenbauer, sur le football.
Voilà.
Dans un dictionnaire Heidegger,
ça fait partie des surprises. Il y en a d'autres. Il y en a plein. Il y a un article fait où Heidegger parle justement de cette dimension de l'inhabituel. Et dans ce livre, effectivement, en plus, la caractéristique du dictionnaire, c'est qu'on passe d'un terme à un autre sans qu'il y ait les liens logiques habituels. C'est un ordre alphabétique. Donc, on peut passer de Beckenbauer à un concept philosophique et découvrir toutes sortes de choses, humour, Provence, Rodin, Saint-Exupéry, au milieu des concepts habituels, si vous voulez.
C'est un dictionnaire très plaisant qui permet à ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs Heidegger d'y entrer en douceur, en quelque sorte, en différentes touches. Alors ces choses-là étant dites, Adrien France Lanor, Il nous faut donc parler de Martin Heidegger. Il faut dire deux, trois mots sur la vie de Martin Heidegger. Sûr. Et d'abord théologien, c'est ça? Il a fait des études de théologie.
Avant d'abord, effectivement.
En Allemagne.
En Allemagne. Donc, il est né à Meskirch, à proximité de Constance. On est dans le sud de l'Allemagne et il est dans un univers catholique, y compris familial, très catholique. Et il rompt, comme il dit, en 1919 avec le système de l'Église catholique. Donc là, il y a une première rupture, alors même qu'il a été pris en charge par les catholiques dans ses études, par des même financièrement. Hein, et c'est quelqu'un qui est issu d'un milieu très simple, très modeste. Donc il n'avait pas du tout les moyens de faire des études universitaires. Et il rompt finalement avec cette première orientation vers la prêtrise, hein, ou en tout cas la théologie. Même si, comme le montre du reste l'article théologie, il a l'interrogation sur le divin, alors peut-être pas sous la forme d'une théologie traditionnelle et pas non plus sous la forme d'une théologie chrétienne, catholique, l'interrogation sur le divin est très très présente. Et puis ensuite, il se dirige effectivement vers la philosophie et devient l'assistant de Husserl.
Alors, naissance en 1889 et son maître livre, le livre de référence, a été publié en 1927.
Oui.
Être
et temps. Oui, et il a tardé à publier. Ça lui a été reproché quand il faisait ses premiers pas dans l'université. Ça faisait partie des professeurs qui publiaient le moins. Il y a parfois un peu comme ça la course à la publication dans l'université déjà
pareil,
à l'époque.
Oui.
Oui, ça. Et au départ, il écrivait un livre sur Aristote. Et puis finalement, comme pour une nomination de poste, il n'avait rien publié. Alors il a donné les esquisses de ce livre sur Aristote. Et il a encore tardé. Et ce livre sur Aristote est devenu Étretat.
Alors, il y a une rencontre déterminante, c'est celle d'Husserl. Il a été l'assistant d'un autre grand philosophe, Husserl. Et quand j'ouvre la notice, c'est la page 641 du dictionnaire intitulé Edmund Husserl, voilà ce que je lis. À l'instar de celle qu'il y a Platon et Aristote, la relation de Husserl et Heidegger est à la fois le lieu de la fondation grandiose d'un édifice commun, la phénoménologie. La phénoménologie, c'est moi et Heidegger, disait Husserl, dans les années qui suivirent la Première Guerre mondiale, et celui d'une irrémédiable divergence où le litige philosophique se leste de toute la charge sensible et humaine d'un rapport de filiation. Oui. Ça, c'est important.
Oui, c'est très important. Husserl, c'est le fondateur de la phénoménologie.
Il faut rappeler en deux mots ce qu'est...
La phénoménologie, c'est une manière de penser qui ne prédétermine pas les choses et essaie de se mettre face à elles pour considérer la manière dont elles apparaissent à nous. Et Husserl prend comme fil conducteur de cette manifestation, comment les choses nous apparaissent, il prend la conscience, et donc étudie comment la conscience constitue les phénomènes qui se montrent, et quand nous voyons une table, comment nous percevons une table, toutes les couches qui apparaissent, etc. Alors, Heidegger retient de la phénoménologie une pratique du regard, une manière de se mettre face aux choses. Et ça, vraiment, il a admiré ça toute sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, Heidegger parlait de Husserl avec un respect extrême. C'est vraiment un des sujets sur lesquels il ne fallait pas être moqueur. Là, il était très grave là-dessus.
À la relation Platon-Aristote.
Voilà, et donc, autant il y a une césure entre Aristote et Platon, autant il y a aussi une césure entre Heidegger et Husserl. Et en réalité, maintenant, ça fait partie des choses qu'on sait mieux grâce à la publication des cours, et notamment les premiers cours. En fait, il y a une différence d'emblée. La pratique philosophique, ça, Heidegger la reçoit de Husserl, ne plus être un simple théoricien et vraiment se mettre face aux choses mêmes. Mais la différence entre Heidegger et Husserl, c'est que Heidegger a lu les Grecs avec une intensité extrême. Et Husserl n'a pas de réelle connaissance du monde grec. Ce qui fait que là où Husserl travaille à partir de la conscience et d'un sujet, et dans l'horizon de la métaphysique classique, si vous voulez, hérité de Descartes, il y a des méditations cartésiennes de Husserl, Heidegger remonte en amont de la conscience. Chez les Grecs, il n'y a pas de conscience, il y a un être humain qui est ouvert au monde et aux choses qui se manifestent. Et donc, en réalité, il y a une filiation dans la pratique philosophique, mais d'emblée, les chemins phénoménologiques sont sur des bases entièrement différentes.
Alors, on va parler de son concept, mais j'utilise le mot concept, mais c'est pas un bon mot. Il y a d'ailleurs une notice concept, il faut s'en dégager,
Heidegger. Absolument, oui.
Il faut parler de la philosophie, de sa notion de de la philosophie avant de parler de Dasein, de son idée centrale, sans doute.
Une des idées, oui.
Ouais, une des idées. Dans la notrice philosophie, il est écrit ceci. La philosophie dit, quant à lui, Heidegger en 1927, est science de l'être dont il y a tout lieu de penser qu'il n'est pas un simple résidu. Science de l'être, cela signifie également autre chose qu'un vague amour de la sagesse, car il se pourrait précisément que la pensée, dit Heidegger, dans le prologue de la conférence Temps et Être, se trouve aujourd'hui placée dans une situation qui exige des méditations fort éloignées d'une sagesse utilisable. Quelle est la notion, la conception de la philosophie, s'il est possible de la résumer chez Heidegger?
Alors là, c'est très complexe. Et parce que il y a plusieurs choses, il y revient sans cesse. Si on entend philosophie au sens strict, c'est-à-dire la manière dont le mot a été défini par Platon puis par Aristote, on peut dire d'une certaine manière que Heidegger n'est à la lettre plus philosophe, et il lui arrive de dire qu'il renonce au mot philosophie, auquel il préfère celui de penseur, qui est plus ouvert. De même que, dans ce sens, vous pouvez dire que la pensée chinoise n'est pas à proprement parler philosophique, puisqu'elle ne travaille pas avec les concepts grecs établis par Platon et Aristote.
C'est autre chose qu'une vague, je reprends l'expression, autre chose qu'un vague amour de la sagesse.
Oui, et alors ça, c'est plutôt la conception héritée des Romains, si vous voulez, pour qui la philosophie est culture de l'âme, et donc est orientée vers le soin de la vie. Ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas présent chez Heidegger, puisque précisément, on va sûrement en parler, l'introduction de l'existence et du Dasein au cœur de la philosophie fait que il est un des penseurs qui a montré de la manière la plus parfois vigoureuse comment toute l'existence entière est prise dans la philosophie, mais ça ne veut pas dire une espèce d'idée utilitaire au fond, comme si on voit ça aujourd'hui, la tendance qu'a quelque chose qui s'appelle philosophie à être un petit médicament pour aller mieux, et c'est pas du tout de cet ordre. Ça, c'est très à la mode, c'est très vendeur. Bon, voilà, ça a peut-être son utilité, je ne sais pas. Après tout, ça peut très bien être un médicament, pourquoi pas. Mais la pensée philosophique, c'est quelque chose dont il n'y a pas à attendre une guérison, si vous voulez, immédiate. Ça engage l'être humain dans son rapport à lui-même, dans son rapport aux autres, dans son rapport au monde, d'une manière telle que c'est beaucoup plus large que simplement une petite sagesse immédiate.
Alors, est-ce que l'on peut dire, Adrien France-Lanor, que la notion de Dasein est au cœur de l'œuvre d'Heidegger?
Oui.
Je schématise sans doute, mais on est obligé.
Non, non, ça, on peut le dire, c'est très important.
Alors il faut, s'il vous plaît, l'expliquer. Il se trouve que vous êtes l'auteur de la notice Dasein dans ce dictionnaire, donc vous êtes l'homme de la situation.
Si vous voulez.
Ce Dasein, de quoi s'agit-il?
C'est un mot pour dire le rapport que l'être humain a à l'être. Et l'être, ça ne veut pas dire quelque chose d'abstrait qui nous dépasse et qui serait transcendant. Nous sommes, comme on dit d'ailleurs en français, des êtres humains. Et l'être, c'est tout de suite un sens. Quel sens a pour chacun le fait d'être? Ça n'est pas le cas pour les animaux qui sont, mais la question du sens ne se pose pas. Et si vous voulez, Dasein, c'est une manière de dire que l'homme est dans un rapport attentif au sens de l'être. C'est-à-dire, c'est poser d'emblée le rapport de l'être humain comme sens de l'existence, si vous voulez. L'être humain n'existe que dans un certain sens le concernant.
Alors vous écrivez aussi, Adrien, Dasein s'entend immédiatement en allemand pour dire le fait d'être présent, d'être là, et on le rencontre aussi bien dans la langue courante que dans celle des philosophes où il émergea au XVIIIe siècle.
Oui, alors le sens être classique, ça veut dire être présent. Et là, on peut dire que c'est un petit peu l'étrangeté de Heidegger d'avoir été prendre un mot métaphysique tout à fait traditionnel qui veut dire le fait d'être là, comme le verre est là sur la table, alors que lui va lui faire dire la manière d'être propre à l'être humain et à lui seul. Parce que le verre est présent sur la table, mais n'a pas de rapport au sens de son être. Alors que l'être humain, ce qui le signe d'emblée, c'est qu'il a une écoute du sens de ce que signifie pour lui être. Et donc, il prend ce mot tout à fait traditionnel, le mot existence, et ce qui a occasionné un peu la vogue existentialiste et le contresens aussi, le malentendu en tout cas existentialiste, Même si il y a plein de choses très fécondes par ailleurs dans ce courant, mais ce que veut dire Heidegger, c'est nous ne sommes pas de la même façon qu'une table, qu'un animal, même que Dieu dans la tradition métaphysique. Nous sommes d'abord des êtres finis qui avons une entente de l'être et existons dans un certain sens, dans une certaine écoute, et c'est ce que veut dire Dasein.
Alors, en quoi ce Dasein a-t-il entre guillemets révolutionné ou apporté à la philosophie?
Bah, d'abord, c'est la première fois qu'en philosophie, l'être humain est placé au cœur. C'est très étrange à dire, mais l'ontologie grecque, la manière dont les Grecs ont interrogé l'être, se fonde sur le mode d'être des choses. La présence constante. Et toute la philosophie, si vous voulez, se meut dans cette manière. Être, ça veut dire être constamment présent. Quand vous déplacez le regard et que vous dites, mais le problème, c'est que l'être humain n'est pas de la même façon qu'une table. Et il faut donc réinterroger l'ensemble des choses à partir de la manière dont est un être humain. Ce qui fait que être étant s'ouvre, comme il dit, sur une analytique existentielle. Et c'est la première fois dans l'histoire de la philosophie que vous avez un penseur qui situe au cœur de son questionnement, comme en étant la source, l'existence humaine en tant que telle, avec sa manière singulière d'être.
Donc, comme pour chaque grand penseur, il y a un avant et après Heidegger dans la matière.
Oui, ça c'est tout à fait clair. Ouais. Et là, on peut dire même, si vous voulez, que dans la chronologie de l'histoire de la philosophie, il y a avant Platon, les penseurs comme Héraclite, Parménide, Empédocle. Platon inaugure quelque chose qui va jusqu'à Hegel et Husserl, qu'on peut appeler l'histoire de la métaphysique. Et cette histoire se termine avec Heidegger. Donc ça fait une rupture qui embrasse 2500 ans de pensée.
Et est-ce que le monde intellectuel a eu tout de suite conscience de cet apport au moment où Heidegger l'a apporté ?
Oui, c'est-à-dire il a tout de suite été très connu, très lu. Beaucoup d'étudiants, les gens venaient de l'Allemagne entière à ses cours parce qu'ils faisaient redécouvrir. Parce que cette rupture implique en même temps une relecture, ça veut pas du tout dire un adieu. Au contraire, il a lu toute sa vie Aristote, Platon, fait cours dessus, et donc les gens venaient de l'Allemagne.
Gadamer,
Arendt, Léo Strauss, Marcuse, toutes sortes de gens qui deviendront les philosophes du XXe siècle, viennent là au cours de Heidegger sur Aristote et sur Platon dans les années 20. Donc c'est tout de suite très connu. Ensuite, la mesure complète, je pense qu'elle n'a été prise de son vivant que par très peu de personnes. Et maintenant, étant donné l'état de la publication de l'œuvre,
qui continue,
ça devient de plus en plus manifeste.